c'est Marie-Pierre Haddad. Comme tous les mardis, je suis ravie de vous retrouver pour parler politique dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse, on en a beaucoup parlé à l'antenne de RTL, et vous allez voir que c'est un exercice qui s'est souvent révélé crucial dans l'histoire de la Ve République.
Et c'est pour faire face à ces défis et à ce moment très précis du mandat que m'ont confié les Français que j'ai voulu nommer un nouveau gouvernement. Pourquoi ce gouvernement ? Le plus resserré et le plus jeune de l'histoire de la Ve République. Parce que cette époque de crise, que je décris rapidement, suppose avant tout audace, action et efficacité.
Audace, action, efficacité, est-ce qu'Emmanuel Macron en a fait preuve lui-même pendant cette conférence de presse ? Pourquoi cet exercice est un incontournable pour les présidents de la République et comment s'en sont sortis ses prédécesseurs ? C'est le programme du Focus du jour. Et aujourd'hui, j'accueille dans le studio de RTL Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Et aussi avec nous, Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Tu es le chef du service politique de RTL et tu étais justement présent à cette conférence de presse. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que c'est un exercice réussi ou pas pour Emmanuel Macron ?
Ça dépend de ce qu'on appelle un exercice réussi.
C'est là toute la subtilité.
Réussi de quel point de vue ? Réussi pour lui-même, oui, c'est réussi. Il n'a pas été en difficulté. Il n'y a pas eu véritablement de moment difficile pour lui. Il a plutôt fait passer son message, un message très à droite. Donc, on est dans un virage à droite. Lui-même a montré qu'il était capable de répondre à n'importe quelle question. Donc, c'est du point de vue strictement individuel, tout va bien.
Mais...
après, du point de vue collectif, est-ce que c'est bien pour la société en général d'avoir ce type d'exercice assez monarchique ? Il faut quand même voir que toute la presse internationale se paye un peu de notre tête. Hein. Mmh. Est-ce que c'est bien pour les Français d'avoir un spectacle comme ça où on a l'impression finalement d'un entre-soi et puis de choses très 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 loin du quotidien ? Parler de l'uniforme à l'école dans les premières secondes, c'est pas vraiment en phase avec les problèmes du pays tels qu'on les recense hein, par les sondages, par les enquêtes, par les statistiques. Quoi. Donc, est-ce que c'est bien ? Je sais pas. Collectivement, je sais pas.
Et pour toi, Olivier, est-ce que c'est une réussite en demi-teinte ?
Moi, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui restera dans un mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans, et après, largement après le pouvoir d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de regarder les précédents et de voir ce qui est resté des conférences de presse. Il n'est pas toujours resté quelque chose des conférences de presse, et ça, c'est important. Et on avait comme modèle, parce que Emmanuel Macron n'aime pas cet exercice, donc il s'y est peu prêté. On avait le modèle post-gilet jaune, qui était très très long, qui était pour le coup moins calibré et moins travaillé, et finalement il en restait pas grand-chose. Là, pour revenir à celle de la semaine dernière, c'est pareil, je suis pas certain qu'on en retienne grand-chose, sinon effectivement une inclinaison politique, alors très à droite, je sais pas, mais en tout cas avec des signaux clairs pour l'électorat qui semblait décrocher d'Emmanuel Macron, notamment les retraités. Parler de l'uniforme, c'est pas anodin. L'impression générale que j'ai de cette conférence de presse, c'est une forme de nostalgie qui était un peu caressée par différents aspects. Et la seule phrase qu'on retient, c'était pour que la France reste la France, qui était un slogan qui a été utilisé par Éric Zemmour. Et ce qui était un petit peu gênant aussi, c'est que, alors c'est une question qui manquait. Hein. Alors ça, on va s'auto-flageller dans la profession, mais c'est très compliqué de faire beaucoup de questions et puis des questions ont rebondi, mais je trouvais qu'il manquait moi une question qui était un peu fondamentale, c'est pourquoi vous avez changé de Premier ministre, et je suis pas sûr que ces 2h15 de conférence de presse y aient franchement répondu.
Sur la forme, Emmanuel Macron était assis derrière un bureau qui lui-même était un peu surélevé, et tous les codes politiques étaient là, il y avait les couleurs du drapeau français, la devise, l'emblème de la République. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que c'est pas de la politique à l'ancienne tout ça ?
Si, ça participe de ce nostalgisme dont on parlait à l'instant, c'est presque un courant politique hein, qui permet effectivement de parler aux électeurs seniors, sachant qu'il y en a 20% qui partent vers Le Pen et que Emmanuel Macron a peur de les perdre définitivement. Donc oui, c'est leur montrer qu'au fond, la France éternelle est là. Alors, ils ont calculé jusqu'à la distance entre le buste et le pupitre pour avoir exactement la même configuration que le général de Gaulle, qui avait donné cette conférence de presse où il disait, souvenez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, je ne suis pas un dictateur, c'est pas à mon âge qu'on démarre une carrière de dictateur. Donc ça, c'est des images qui sont restées et Emmanuel Macron, il a une façon de communiquer qui est très spécifique. Il copie-coller des séquences historiques. Mmh. Il a fait Mitterrand lors de son intronisation au Louvre avec la même musique, l'hymne à la joie, et puis le même manteau, etc.
Même pupitre.
Quand il est en Israël, il a fait modifier toute la visite. pour faire exactement la même visite que Chirac. Et il s'est même engueulé avec le service de sécurité israélien dans un mauvais anglais, comme Jacques Chirac. Donc il reproduit des séquences historiques, c'est comme un peu une série Netflix, quoi. Il revisite, c'est The Crown, sauf que c'est en live et c'est en vrai.
C'est quelqu'un qui n'avait pas d'histoire politique et qui pioche dans l'histoire politique effectivement des références très fortes et qui, par mimétisme, les copie. Et
c'est ça, très c'est... étonnant, c'est très très étonnant. L'habileté de l'Élysée, c'est de construire une machine de communication qui leur permet d'exister avec très peu de risques. Le problème, c'est que plus moins il y a de risques en communication, moins ça intéresse les gens. Ouais. Imaginez la conférence de presse de l'autre jour avec des questions d'entrée de jeu sur Depardieu, sur la marche contre l'antisémitisme, sur tous ces sujets. On aurait une conférence de presse intéressante, passionnante, complètement différente.
Et justement, Olivier, on a connu Emmanuel Macron plus disruptif au final.
La disruption chez Emmanuel Macron ne se situe pas à ce niveau-là. C'était plutôt dans la façon d'accéder au pouvoir.
Parce qu'effectivement, le parcours politique.
Voilà, c'est le parcours politique, la disruption. C'est pas du tout dans la façon de faire. Emmanuel Macron fait un peu, et j'ai envie de dire presque souvent, de la vieille politique. La chose qui fait partie des difficultés qu'il a eues dans son premier quinquennat en particulier, c'est qu'il a totalement voulu bousculer et quasiment éliminer du processus de décision les corps intermédiaires. Ça, pour le coup, c'était disruptif. Ça a créé d'énormes soucis, notamment avec les Gilets jaunes, après avec les syndicats, sur la réforme des retraites, etc. Et à chaque fois, ça a été source de difficultés. Mais la vraie disruption d'Emmanuel Macron, elle est là, elle n'est pas dans la façon de gouverner. Pour le coup, c'est ultra classique et c'est un président de la 5e, vraiment de la 5e.
Alors, le fait pour un président de la République de convier les journalistes et d'exposer longuement sa vision, c'est une coutume dans la 5e République, on l'a dit. On la doit notamment au général de Gaulle. En 1959, il invente cette formule et à plusieurs reprises, il va se prêter à l'exercice, comme ici en février 65.
Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de vous voir. Je pense que ce ne sont pas les questions du jour, de l'heure, de la minute qu'il y a lieu de traiter. Il s'agit surtout des questions principales sur lesquelles je vous demande, mesdames et messieurs, de me poser les questions que vous voudrez et auxquelles, suivant la tradition, je tâcherai de répondre. Je vous en prie.
Et RTL avait à l'époque demandé aux journalistes présents ce qu'ils ont retenu de cette conférence de presse.
Il y avait à l'Élysée, je vous l'ai dit, 1000 journalistes. Michel Leblanc a guetté leur réaction pendant la conférence de presse et puis à la sortie, sur le perron, il leur a demandé à tous ce qu'ils pensaient de cette conférence de presse.
Les journalistes américains, Los Angeles Times, pas de programme nouvelle pour lui.
Et sur le correspondant à Paris de Washington Post. Je pensais qu'il y a beaucoup de fil à retour là-dedans.
Rien de nouveau, pas d'annonce, c'est aussi la critique que certains peuvent faire sur Emmanuel Macron. Olivier, toi qui étais sur place à cette conférence de presse, est-ce que tu t'attendais à plus d'annonces? Est-ce qu'il y a des sujets, selon toi, qui ont manqué?
Il y avait quand même des annonces. Le propos introductif qui était assez dense, parce que Emmanuel Macron avait peur de faire trop long, ce qui est l'un de ses défauts. Il y avait un certain nombre d'annonces, mais en fait, ces annonces, c'était pas des grandes annonces politiques de grande direction. Ils avaient fait les tiroirs de tous les ministères.
Oui, en voyant les petites mesures.
Voilà, ce qui restait comme, tiens, on avait ça en boutique, on l'avait pas mis assez en avant. Sur l'annonce sur le fait de s'attaquer à la consommation des écrans par les enfants, c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. Il n'y avait rien de plus.
Et certaines mesures qui sonnaient un petit peu comme du réchauffé. Philippe Moreau-Chevrolet, cette conférence de presse, elle a été suivie par 8,7 millions de téléspectateurs. Elle a été diffusée sur 8 chaînes. Pour avoir un ordre de grandeur, les autres interviews d'Emmanuel Macron, elles ont été suivies par 6, 11 millions de téléspectateurs, ça dépend. Est-ce que c'est une audience décevante, selon vous?
Oui, c'est une audience moyenne, sachant que l'Élysée a vraiment mis le paquet pour pouvoir avoir de la quantité. Donc la communication de l'Élysée, en général, elle est quantitative. Ils essaient de faire le maximum de vues avec McFly et Carlito, comme ici à la télé. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que ça a fait une audience moyenne? Je pense, malgré ce tapage, c'est parce que les gens n'attendaient pas grand-chose de cette conférence de presse. Quand on regarde les sondages d'opinion, ils sont relativement indifférents. Il y en a un bon tiers à la nomination de Gabriel Attal. Au fond, tout ça finit par tourner un peu en rond. Et c'est le problème principal du chef de l'État. Mais c'est pas anormal après 7 ans de pouvoir. C'est qu'au final, on se dit, on a déjà tout entendu. On va pas réécouter 2 ou 3 heures de plus. Et puis, la plupart des téléspectateurs qui pourraient regarder et qui le font pas, c'est parce qu'ils vont regarder des replays, parce qu'ils vont regarder sur les réseaux ce qu'il faut en penser. Donc, ils vont écouter Alex Vizorek et les journaux de RTL, mais ils vont pas se taper 4 heures de conférence de presse.
Est-ce qu'au final, ce format, il est vraiment efficace, d'après vous?
Il peut être efficace s'il y a une forme de tension. Tension parce qu'on attend des réponses et qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Et après, s'il y a une tension entre le président de la République et les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une volonté de provoquer quelque chose. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est que il a réponse à tout. On le savait déjà et ça continue d'être le cas. Il est très 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 fort. Ça continue d'impressionner
c'est
un certain nombre de gens.
On peut lui poser n'importe quelle question, c'est ChatGPT, il répond tout de suite.
Ouais,
c'est très impressionnant.
Ouais, ça c'est impressionnant et ça continue d'impressionner des gens. Hein. Faut pas le sous-estimer. Il a ça, mais en revanche, dans le rapport avec les journalistes où il pourrait y avoir de la tension et où il pourrait être mis en difficulté, etc., il s'en sort toujours. Ce qui fait que ça rend l'exercice pas plat, hein, ça s'écoutait quand même, faut pas exagérer, mais moins intéressant. Par exemple, avec Nicolas Sarkozy, il y avait un rapport qui était beaucoup plus de bataille. Même avec François Hollande, il y avait une approche de la part des journalistes et de la part de François Hollande qui était différent et qui crée un peu de tension qui manque vraiment et qui manquait la semaine dernière.
Le rapport était horizontal. Quand il parlait à des journalistes, il parlait à leurs égaux en quelque sorte. Le rapport de Macron avec la presse est extrêmement vertical. Donc il vous regarde, déjà l'estrade elle est extrêmement haute. Il est très désinvolte sur sa chaise, il fait exprès. Et c'est une attitude pour vous montrer qu'il est vraiment le dominant dans la pièce. Du coup, ça stérilise un peu. Quand en plus on ajoute le fait que les questions polémiques ne sont posées qu'à partir de 22h, c'est-à-dire quand l'audience commence franchement à décliner, ce choix de l'Élysée, il est dingue. Parce que ça tue la conférence de presse. On a quand même envie d'entendre des questions gênantes et agressives. Enfin, la population, quand elle regarde ça, c'est aussi pour avoir une forme de catharsis. Donc on veut expurger des choses qui nous agacent. Si on ne peut pas le faire et qu'on est juste là à regarder quelqu'un qui est très brillant, mais voilà, il ne se passe rien, c'est un peu à côté de la plaque. Une conférence de presse, c'est un moment où on devrait rendre des comptes, être en difficulté. Et Emmanuel Macron n'a aucune difficulté à se sortir des problèmes. Donc même s'il était au pied du mur, même s'il se prenait des coups, ce ne serait pas mauvais pour lui. Mais on arrive à un point de contrôle de la communication par l'Élysée qui devient contre-productif.
Juste pour compléter, ça résume toute la vision qu'a Emmanuel Macron du travail de la presse. Pour lui, les journalistes doivent s'intéresser aux décisions, rapporter les décisions qu'il peut prendre et au fond, c'est-à-dire que c'était toute la première partie de cette conférence de presse qui pour le coup était effectivement trop longue. Simplement, il n'y avait pas beaucoup de matière pour rebondir sur ces sujets-là. Et ensuite, pour la politique, il considère que ce n'est pas la matière noble, que les journalistes n'ont finalement pas à s'intéresser sur la façon dont il prend les décisions et pourquoi il a pris telle décision. Toute la fabrique de la décision doit être une machine noire, selon Emmanuel Macron. Ça relève du secret. Et ce qui est important, c'est que les journalistes parlent de ce dont il a décidé. Ce qu'il a décidé. Et donc, on a ce problème-là, qui est aussi ancien que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et qui se voyait énormément la semaine dernière, parce qu'il y avait toute cette première partie, trop longue, sur les décisions qu'il avait pu prendre.
Je vous propose de faire un saut dans le temps.
Avez-vous l'intention, Monsieur le Président, d'associer directement les Français à l'Union européenne en leur proposant un référendum, soit à l'occasion de la nécessaire révision de la Constitution, soit après cette révision pour la ratification des accords de Maastricht proprement dit.
Quoi qu'il en soit, il faut informer les Français et ne pas cesser pendant les semaines et les mois qui viennent, le temps qu'il faudra, de leur démontrer l'importance de ces accords, l'importance pour la France, l'importance pour l'Europe.
Une archive RTL. Et pour
la réponse complète, c'était oui. Hein.
Oui, voilà, accessoirement, c'est ça. Mais elle était très longue, donc j'ai été obligée de raccourcir. Olivier, les conférences de presse sous François Mitterrand, elles sont connues pour être un exercice assez intense pour les journalistes, à l'inverse de ce qu'on disait pour Emmanuel Macron. Est-ce que tu en as des souvenirs?
Alors non, parce que je ne suivais pas à cette époque l'actualité politique. J'étais un petit peu jeune. Mais en revanche, j'en ai des souvenirs. Et puis surtout, j'ai travaillé dessus et j'en ai regardé parce que c'est une base extrêmement intéressante. Toutes les conférences de presse de président sont intéressantes à regarder parce qu'elles disent beaucoup du pouvoir exercé à ce moment-là par le président de la République. Le rapport, pour le coup, de François Mitterrand avec les journalistes était pas plus simple qu'aujourd'hui. C'est lui quand même qui choisissait très largement les journalistes du premier rang et du second rang. François Mitterrand entretenait toute une cour tout autour de lui et dans la cour globale, il y avait aussi des journalistes. Et on les retrouvait en partie dans ces conférences de presse.
C'est très monarchique. C'est en France, le président a l'habitude de choisir les journalistes avec lesquels il est en contact. Donc les interviews se passent avec la validation de l'Élysée. L'Élysée valide les thèmes, le choix des interlocuteurs. Enfin, c'est extrêmement particulier.
Donc, c'est très cadré au final.
C'est très cadré. Et en même temps, c'est ce qu'attendent les Français d'une certaine façon. Ils aiment bien ce rituel monarchique. C'est ça. Toute la difficulté, c'est ça. Les gens qui ont essayé de lutter contre ce système Gaspard Koenig qui a essayé de faire une carrière en politique, ils ont échoué. Et ils disent maintenant, mais on a perdu du temps parce qu'en fait, les Français sont attachés à ça. Donc, c'est compliqué parce que, en même temps, si on imagine Marine Le Pen avec ce type d'étendue de pouvoir, on a une vision qui est assez effrayante. Mais c'est la réalité de notre fonctionnement. Et il faudrait revenir peut-être à un fonctionnement parlementaire comme pendant la 3e ou la 4e République pour pouvoir avoir un truc un peu différent. Et Mitterrand était encore plus monarchique que Emmanuel Macron, si c'est possible. C'est-à-dire quand on lui posait des questions et que ça le gênait, il interrompait d'une façon vraiment alors, souveraine en disant « Je ne pensais pas que vous tomberiez aussi bas. » quoi. C'est vraiment d'une manière extrêmement méprisante. On a des archives là-dessus. Le rapport à la presse en France des chefs d'État, c'est vraiment particulier. Quoi.
Jusqu'à présent, on a parlé de politique nationale, politique internationale, mais il y a aussi des séquences qui ont plus marqué les esprits.
Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.
Janvier 2008, c'était la séquence à retenir de cette conférence de presse. Et en regardant les archives, j'ai pu voir, Olivier, que tu étais présent à cette conférence.
Et jeune.
Voilà. Est-ce que tu t'attendais à une telle déclaration de la part de Nicolas Sarkozy ?
Je pense qu'elle était extrêmement préparée. Ça permettait de...
Ah, parce que ça a l'air très naturel.
Complètement. Non, parce que ça permettait de complètement boucler le sujet. Pour le coup, c'est vraiment... La conférence de presse était parfaite pour ça. Interpellée ailleurs ou par un communiqué ou par une déclaration ou je ne sais quoi. Alors, les réseaux sociaux étaient moins importants à l'époque, mais c'était inenvisageable. Là, c'était vraiment l'exercice parfait pour régler une question, qui était une question qui avait troublé, hein, parce que le président de la République, qui se sépare de sa femme, qui est vu avec une mannequin un peu de temps après, etc. Pour un certain nombre d'électeurs de Nicolas Sarkozy, c'était troublant à l'époque. Donc c'était quelque chose qu'il fallait absolument régler. Et ça explique... au-delà du président des riches qui lui avait été collé assez rapidement, la deuxième chute de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des Français, c'était cette incompréhension-là, et qui venait de son électorat. Et donc, il y avait quelque chose à régler, et donc c'était un moment, pour le coup, fort. Moi, je me souviens de cette conférence de presse, et c'est vrai qu'on savait que la question allait arriver, elle est arrivée assez tôt, et elle était cash, et donc c'était réussi.
Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un basculement dans un autre registre, et aussi que les politiques, ils ne parlent pas que de politique, mais aussi de leur vie privée avec ça?
Alors maintenant, oui, avec cette séquence et le symbole, avec Carla,
avec
c'est
recul,
du sérieux. Ouais. D'abord, avec le recul, la prémonition de Nicolas Sarkozy sur les photos au petit matin glauque. On a eu exactement ça avec François Hollande, quand même. Donc, c'était quand même vraiment une intelligence, quoi, de dire ça. Il fallait déminer. Moi, j'ai fait des qualis pour des candidats à l'élection présidentielle de 2017. Et quand on parlait de Nicolas Sarkozy aux électeurs de droite, des qualis, c'est des moments où on laisse parler des électeurs librement. La question du divorce revenait. C'est-à-dire, il faut pas qu'on ait un leader qui ne sache pas tenir la France. Et tenir la France, ça veut dire tenir sa femme. Je vous donne les clés telles qu'elles étaient à l'époque. Ça m'avait sidéré, mais ça montre l'archaïsme du truc. Mais ça explique pourquoi il en a fait des tonnes. Parce que quand vous assistiez à ça, vous disiez, mais pourquoi il me parle de son couple? Pourquoi il va à Petra avec sa copine en vacances? Pourquoi je suis au courant? Ça ne me concerne pas. J'ai l'impression d'être un voyeur en écoutant ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était politique.
On attribue même à cette phrase une baisse de la cote de popularité du président. Plusieurs années après, en 2017, Nicolas Sarkozy est revenu sur cet épisode. « Ma formule, déclarait-il à Paris Match, n'avait rien d'un acte immature. Au contraire, je voulais justement protéger Carla Bruni. D'ailleurs, nous nous sommes mariés un mois plus tard à l'Élysée », c'est ce qu'il expliquait. Est-ce que ça lui a fait du tort, cette petite phrase, selon vous ?
Bah pour moi, non. Non, pour moi, non, justement, non.
De le sortir de cette...
Ça permettait de... Le pire, c'est de laisser ce genre de situation, être commenté, effectivement être photographié, et finalement de ne pas régler cette question. Ça a été, pour le coup, géré intelligemment, parce qu'il y a eu d'autres moments beaucoup plus compliqués pour Nicolas Sarkozy, le casse-toi pauvre con, le yacht de Bolloré, président des riches, etc. Ça, c'est des choses qu'il n'est pas arrivé à décoller.
Je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait d'avoir choisi la conférence de presse pour aborder ce sujet. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'on peut imaginer que les réactions auraient été identiques si c'était un autre format, une interview, que ce soit écrite, par exemple, ou dans l'audiovisuel ?
Les réactions auraient probablement été moins critiques, parce qu'en conférence de presse, on s'attend à ce qu'il soit sérieux, c'est l'habitude française. Du coup, comme on passe directement de la stature du roi à sa vie privée, à sa chambre à coucher, il y a une forme de... On sent une chute. Je pense que, de toute façon, quand on a des éléments entre guillemets négatifs comme ça, il faut les gérer, il l'a plutôt bien géré. C'était se prendre une baffe, mais de toute façon, elle était inévitable.
Oui, il fallait la prendre.
Regardez ce qui est arrivé à François Hollande, encore une fois. En plus, il a tellement maltraité Valérie Trierweiler. C'est le livre de Valérie Trierweiler, merci pour ce moment, est le livre le plus vendu dans la librairie française en non-fiction, ce qu'on appelle en non-roman depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on parle d'un phénomène massif, il valait mieux faire une petite phrase en conférence de presse, je pense.
Alors je vous propose justement de passer maintenant à François Hollande. Nous sommes en janvier 2014.
Valérie Trierweiler est-elle toujours aujourd'hui première dame de France ? Je vous remercie.
Je comprends votre question. Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe. C'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun. Ce n'est donc ni le lieu, ni le moment de le faire. Mais si je ne répondrai à aucune question aujourd'hui sur ce sujet, je le ferai avant le rendez-vous que vous avez fixé.
Alors cette réponse était évidemment préparée et c'est ce que nous racontait Gaspard Ganzer, ancien conseiller en communication de François Hollande.
Gaspard Ganzer, comment on se prépare à une question pareille? Il y a eu du média training avant? Vous avez joué le journaliste avec lui?
Non, je m'en étais occupé directement, mais je pense que François Hollande voulait vraiment préparer cette réponse tout seul en fait. C'était vraiment très intime, voire personnel. Mais j'en ai souvent reparlé avec lui après. Il m'a dit il fallait l'évacuer cette question. Alors ça n'a pas empêché le journaliste quand même d'y revenir, mais bon, il avait considéré qu'il avait répondu une première fois que ça suffisait.
Gaspard Ganzer, invité de RTL Bonsoir, c'était le 16 janvier dernier. François Hollande va être à nouveau interrogé sur cette question, mais cette fois-ci sur le livre de Valérie Trier-Weller. Donc c'était dans une autre conférence de presse quelques mois plus tard. Philippe Moreau-Chevrolet, vous qui êtes spécialiste en communication politique, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? C'est l'enfer, non, quand on est communicant politique?
C'est catastrophique parce qu'on l'interroge. C'est le moment de répondre. On répond pas à une question en disant « je vais vous répondre plus tard ». Ça passe pas devant 10 millions de gens. Et puis ensuite, il y a plus de vie privée quand on est président de la République. Le problème de François Hollande, c'est qu'il résistait contre la fonction de président. Il voulait pas vraiment être président de la République complètement, parce qu'il voulait être
président
différent.
Normal.
Non, mais oui, c'est ça, mais il voulait être différent de Nicolas Sarkozy. Mais il a pas compris qu'en fait... Une fois qu'on est élu président, il n'y a plus ce type de règles. Il faut jouer avec le système, il faut accepter ça. Et il aurait beaucoup mieux fait de gérer ça d'une façon plus intelligente. Et ce que dit Gaspard Ganzer est très révélateur. François Hollande, il mettait son staff de communication devant le fait accompli. C'est-à-dire que la veille, les conseillers quittaient François Hollande avec une décision. Le lendemain, en conférence de presse ou sur BFM, ils voyaient le président faire l'inverse. Et ça, il le faisait très souvent parce qu'il pensait, François Hollande, qu'il maîtrisait sa communication, ce qui est le défaut numéro un des politiques français. Alors qu'en fait, non, il faut se faire entourer et conseiller. C'est bien d'écouter les gens aussi.
Il y a eu beaucoup de questions sur l'organisation des conférences de presse, sur les questions des journalistes. Je reviens sur la dernière qui a été faite par Emmanuel Macron. Est-ce que cette conférence de presse, eh bien, l'Élysée était au courant des questions, Olivier?
Alors, il y avait la volonté de la part de l'Élysée de séquencer. Ce qui était assez nouveau, parce que jusque-là, c'était un exercice totalement libre. Et c'est quelque chose que je comprends tout à fait. C'est-à-dire que quand vous passez d'une question, par exemple, sur la vie privée, à la question suivante qui concerne la situation du Liban, et la question d'après qui concerne le prix de l'électricité, c'est très compliqué à suivre, et ce sont des exercices qui sont difficilement lisibles. Ensuite, l'Élysée a toujours maîtrisé la distribution de la parole. C'est-à-dire que les micros... Peu importe les présidents. Ceux qui ont les micros en main et qui les distribuent sont des gens du service de presse, qui connaissent donc les journalistes. Et depuis qu'il y a des téléphones portables, il y a des échanges de SMS entre les journalistes et les conseillers pour avoir la parole. Moi, par exemple, je suis toujours contenté de demander la parole pour le nom du média pour lequel je travaillais, sans préciser le thème ou la question. La semaine dernière, moi, je visais la partie 1 et la partie 2 en me disant que la partie 2 allait arriver beaucoup trop tard. Donc, j'ai demandé à plusieurs reprises, etc. Et après, ce qu'il faut voir surtout, c'est que l'Élysée, dans cette distribution de la parole, est plutôt à distribuer en fonction des médias. C'est-à-dire que pour, à la fin, les principaux médias aient eu des questions, voire plusieurs, que tout le monde soit représenté entre radio, télé, les presses écrites, et puis après parfois aller chercher des médias un peu plus jeunes, qui étaient par exemple des questions, la question très intéressante je crois de 20 minutes. Après, je ne sais pas, et là pour le coup, chacun fait le choix qu'il veut faire, s'il y a des gens qui soumettent ou donnent intégralement leurs questions. Et après, pour avoir connu les choses de manière un peu différente, l'association de la presse présidentielle que j'ai présidée a organisé régulièrement des rencontres avec le président de la République et ses prédécesseurs pour faire des rencontres avec les journalistes qui sont en off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro et pas de caméra. Et là, par contre, l'exercice était assez différent puisque la maîtrise des micros, c'est l'association qui maîtrise la distribution de la parole. Et pour le coup, moi, j'avais fait le choix, quand on en organisait plusieurs avec le président de la République, de vraiment séquencer les sujets, mais ça, c'est moi qui maîtrisais, et de dire, tant qu'on n'a pas épuisé le sujet, on passe pas au suivant. Et donc, ça permettait de faire de la relance et d'avoir régulièrement...
Et là, l'Élysée n'avait pas du tout...
La dernière fois qu'on a fait cette... Alors après, ça n'empêche pas de discuter de globalement des sujets qui vont être abordés, parce que c'est l'intérêt de tout le monde d'avoir des sujets sur lesquels le président de la République a quelque chose à dire. Par exemple, on avait fait ça à la rentrée 2022, septembre 2022. Et là, c'est extrêmement intéressant, parce que dans ce contexte-là, le président de la République nous avait exposé ce qu'il voulait faire sur les retraites. Il nous avait exposé, alors il a depuis sa patine, mais sur la fin de vie ou sur le nucléaire, toute une série de sujets sur lesquels il a pu avoir une parole sinon plus libre, en tout cas plus challengée, pour reprendre un mot qu'adore l'Élysée, dans une conférence de presse avec 8, 9, 10 millions de téléspectateurs.
J'ai une dernière question, Philippe Moreau-Chevrolet. Est-ce que vous avez un conseil de communicant politique à donner à Emmanuel Macron après tout ce qu'on a dit dans cet épisode ?
Un conseil, oui, ce serait de choisir son successeur et de le soutenir et de le mettre en place. Et de pas jouer ce que font la plupart des anciens présidents de la République, tuer le successeur par orgueil ou vanité ou détestation personnelle. Parce que le problème là, en 2027, c'est que il faudra plus que des incantations pour éviter Marine Le Pen, on sait tout ça.
Ça peut se discuter, parce que est-ce que la meilleure solution pour le successeur d'emmanuel Macron sur le bloc central est d'avoir le soutien d'Emmanuel Macron?
Non, mais disons que si l'Élysée pouvait ne pas mettre des bâtons dans les roues des éventuels successeurs, même rester neutre, ce serait préférable. Là, le problème, c'est qu'il s'amuse à tuer ses successeurs potentiels. On connaît la guerre qui est en cours avec Édouard Philippe. Tout ça n'est pas très raisonnable. Ce n'est pas le rôle d'un président de la République de faire le vide. Il a beaucoup fait le vide, Emmanuel Macron, en politique. Maintenant, il faudrait peut-être construire. Ça, ce serait mon conseil.
Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet. Merci aussi, Olivier Bost. Damien Béchiot était à la réalisation de cet épisode. Vous pouvez écouter tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, sur rtl.fr, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et n'hésitez pas à les commenter.